Bonjour, vous m'entendez ?
Oui.
Bonjour, bonjour.
Salut Marie.
Salut Yazid.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va.
Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois ?
Eh bien écoute, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On a quand même quelques petites, pas mal de choses à partager aujourd'hui. Mm-hmm. Quelques informations récentes qui nous ont fait un peu de bien. Notamment la condamnation en tout cas de Marine Le Pen, il n'en faut pas beaucoup pour nous satisfaire actuellement, mais ça fait partie des nouvelles qui nous ont un petit peu fait du bien dernièrement.
Ouais, effectivement.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Marie ?
Alors, on va vous lancer en exclusivité un épisode de Visa Palestinien. Sur le Hamas, le mouvement du Hamas. On a décidé d'étudier de plus près tous les mouvements politiques palestiniens et on va commencer cette série avec celui-ci. Mais avant, on va faire un peu le tour des actus avec toi, Yazid. Et après, on écoutera un témoignage d'une amie qui est actuellement en Égypte.
Oui, tout à fait. On va essayer de brièvement un peu de resituer ce qui se passe actuellement dans cette zone géographique et notamment en Palestine. Donc depuis le 2 avril 2005, du coup, le ministère de la Santé de Gaza rapporte qu'il y a plus de 50 000 morts.
2000 combien tu m'as dit ?
2025. Ah, oui, je suis en 2005. Okay. Ouais. 2025, pardon. Plus de 50 423 morts et plus de 114 638 blessés depuis le début du génocide. Mais bon, on sait que ces chiffres, du coup, sont totalement à relativiser au regard du fait qu'ils sont peut-être inférieurs de 3 fois, 4 fois ou 5 fois le chiffre, potentiellement.
La revue du Lancet avait dit l'année dernière, il me semble que c'était au printemps dernier, qu'il y avait environ 180 000 morts déjà à cette époque.
Tout à fait, exactement. Donc, on se base uniquement aujourd'hui sur les chiffres reportés par le ministère, mais on sait que malheureusement, ces chiffres ne reflètent pas forcément la réalité. Aujourd'hui, du coup, on est le 2 avril et on a à peu près 2 millions de personnes qui sont déplacées. Donc ça fait quasiment la majorité de la population du coup, de Gaza. On a aussi appris récemment que... un des drames parmi tant d'autres, 15 secouristes humanitaires avaient été découverts dans une fosse. Qui aurait été tué du coup il y a peut-être une semaine de cela. Donc ça c'est aussi quelque chose qui malheureusement fait partie de la quotidienneté de la situation à Gaza. Et puis là actuellement nous sommes en plein ordre d'évacuation de Rafah où il semblerait du coup que l'armée israélienne souhaite du coup annexer en tout cas 25% du territoire, notamment dans le sud, pour en faire une zone de sécurité, une zone tampon. Voilà, d'après les analystes, il s'agit... En tout cas, la stratégie aujourd'hui de l'armée israélienne, c'est de mettre la pression du coup, sur le Hamas, notamment en vue du coup, de reprendre les négociations, en tout cas celles qui sont en cours. Mais il semblerait que ce soit un peu flou actuellement, la situation, un peu que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie.
Des nouvelles de la résistance palestinienne, justement, récemment ? Des nouvelles, je vais dire, officielles ?
Alors aujourd'hui, le Hamas communique moins que ce qu'il communiquait avant. Il communique toujours, mais toujours en mettant en avant le fait qu'ils respectent du coup les accords de cessez-le-feu qui étaient prévus avec Israël et qu'ils souhaitent du coup les respecter. Donc il y a une forme de retenue encore du coup dans la réponse apportée par rapport au massacre commis actuellement dans la bande de Gaza. Et je pense que c'est une stratégie du coup de leur part pour pouvoir montrer qu'ils sont pleinement concernés par ce qui se passe. Et je pense que la moindre action, en tout cas suffisamment violente et brutale de la part du Hamas, pourrait en tout cas déclencher, j'ai envie de dire, une répression encore plus sanglante et violente que ce qu'il y en a. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de Hamas de faire en sorte que ces accords puissent potentiellement reprendre là où ils s'étaient arrêtés.
On peut noter qu'environ 900 violations du cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur le 19 janvier sont à signaler par l'armée israélienne.
Oui, complètement. Je pense que c'est celles qui sont répertoriées. Il semblerait qu'il y en ait relativement beaucoup plus parfois, mais c'est celles qui sont effectivement mises en avant. On parle beaucoup de Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie. Mm-hmm. La Cisjordanie qui, depuis Depuis maintenant décembre 2024, on a recensé à peu près plus de 26 000 Palestiniens déplacés du coup des camps de réfugiés. Je pense qu'on a tous entendu et vu des images de ce qui se passait dans les différents camps de réfugiés, notamment celui de Jenin.
Jenin et Toulkarem.
Et Toulkarem, entre autres. Ouais. Et c'est quelque chose qui est du jamais vu depuis des décennies, du coup, en Cisjordanie. La Cisjordanie est devenue quasiment le terrain principal du coup, des confrontations entre la résistance du coup, et l'armée israélienne. Et sans vouloir dire que ce n'est plus Gaza la centralité, mais en tout cas, il n'y aurait plus cette centralité qu'il pouvait y avoir au début du génocide du coup, à Gaza, et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fronts, du coup, malheureusement, où le génocide du coup, et cette épuration ethnique qui est en cours, elle n'est pas lieu qu'à Gaza. Et c'est important de dire à ceux qui nous écoutent que ce qui se passe en Jordanie est tout aussi grave et du même registre. Pour l'actualité, on a aussi des attaques du coup, de colons assez régulièrement, quasiment tous les jours. Là, le premier avril, on a environ 300 colons israéliens qui ont attaqué un village à Douma et qui s'attaquent du coup, aux Palestiniens, bien évidemment, aux matériels, aux fermes, brûlent les véhicules, détruisent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage avec l'aide du coup, de l'armée israélienne. Donc voilà, donc, la situation en Cisjordanie n'est pas... ne s'améliore pas, mais reste malheureusement très compliqué pour les Palestiniens.
On peut également noter, vous avez sans doute entendu parler, mais on revient sur ces chiffres qui sont considérables et dont malheureusement la presse française ne fait pas vraiment état. Plus de 208 Palestiniens journalistes ont été assassinés dans la bande de Gaza depuis le début du génocide. Là, le 24 mars, Israël a frappé deux journalistes qui travaillaient notamment pour Al Jazeera, Osam Shabat pour Al Jazeera Moubacher, et ainsi que Mohamed Mansour. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose dont il faut un peu plus parler. Et les grands défenseurs des droits des enfants et des droits des journalistes, on aimerait un peu les entendre sur ce qui se passe à Gaza. D'autre part, le réalisateur oscarisé Hamdan Balel a été attaqué par des colons et incarcéré par l'armée israélienne pendant deux jours la semaine dernière. Après avoir été récompensé donc, de l'Oscar du meilleur documentaire pour son film No Other Land. Et voilà, c'était une vengeance par rapport à la victoire de son film. Et donc il y a une vraie bataille médiatique, une bataille des images hein, qui se joue en Palestine et dans les territoires, enfin dans tous les territoires occupés. Et du coup, on les soutient et on essaie de donner de la force à tous ces gens sur place qui payent de leur vie, qui payent très cher le fait de montrer la réalité des atrocités commises par l'armée israélienne.
Oui, tu fais bien de préciser ça, effectivement. On peut parler aussi du coup d'un contexte plus régional. La question palestinienne s'inscrit dans une région, ce qui se passe au Liban, malgré du coup le cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'armée israélienne du coup depuis novembre 2024. Les attaques sont incessantes, sont quasi journalières de la part de l'armée israélienne au Liban et du coup la dernière, une des dernières en tout cas qui est celle du 1er avril, qui a touché du coup le sud de Beyrouth, du coup des frappes israéliennes qui ont tué 4 personnes. Dont potentiellement un responsable du Hezbollah et son fils et d'autres blessés. Donc voilà, donc on n'oublie pas que le bilan humain aussi est très très lourd du côté du Liban. Depuis octobre 2024, du coup, on recense plus de 4000 personnes qui sont mortes et plus de 16 000 blessés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir les chiffres du coup, des membres du Hezbollah, en tout cas ce qui a été annoncé du côté du Hezbollah, parce que le Hezbollah, à chaque fois qu'il y a un mort, du coup, n'a pas de problème du coup, à communiquer officiellement sur le nombre de morts, et on serait sur à peu près 3000 morts du coup, du côté des combattants du Hezbollah. Donc on a quand même une bonne partie, ce sont des combattants, et une autre bonne partie qui reste du coup des civils. Ce qu'on n'est pas du tout en mesure de faire du coup, dans la bande de Gaza, mais de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas 50 000 membres du Hamas qui ont été tués. On sait que les chiffres démontrent du coup, que c'est majoritairement des enfants et des femmes qui ont été tués.
Officiellement, il y aurait plus de 14 000 enfants qui auraient été morts, ouais. Tués par l'armée israélienne, sans parler de tous les blessés, amputés, etc.
Ok, et puis on a le Liban, mais on a aussi la Syrie, qui fait l'objet depuis le départ et la chute de Bachar el-Assad, du coup, d'une annexation du coup, de la part d'Israël, du territoire syrien, avec du coup quasiment tous les jours un morcellement du territoire syrien, du coup, avec une installation de poste, du coup.
À tous les jours, carrément ?
Ouais. Bah, l'idée, c'est de grappiller un petit peu le plus possible de territoire et d'aller chercher, du coup, le maximum de territoires stratégiques pour pouvoir occuper la Syrie. Et donc, on a... alors, on n'a pas le chiffre exact, du coup, mais on a une bonne partie, du coup, du territoire... frontalier syrien qui est aujourd'hui occupé par l'armée israélienne. Et l'inquiétude qu'on a aussi, c'est ces oppositions qu'ont pu avoir lieu, je ne sais pas si les gens ont pu suivre, entre des Libanais, des Syriens, donc, des prétendus du coup, membres du Hezbollah et des Syriens. On a aussi du coup, les Turcs qui sont très présents du coup, en Syrie. Et on soupçonne une crainte du coup, d'une escalade entre notamment les Turcs et les Israéliens sur le terrain syrien. Voilà. Sans parler du coup du Yémen, qui continue de se faire bombarder du coup assez quotidiennement par les Américains et les Britanniques, et qui paye très cher du coup son soutien à la Palestine, tous les jours du coup un peu plus. Et puis peut-être finir avec cette tension de plus aussi très importante qu'il y a, je pense qu'elle n'a jamais été aussi proche du coup d'une guerre entre les Iraniens et les Américains. Et là où Trump avait dit qu'il ne serait pas un va-t-en-guerre et qu'il ne ferait pas la guerre, on a bien compris que ce monsieur a tout dit sauf la vérité.
Oui, d'ailleurs, l'après Trump, qu'est-ce que ça donne par rapport à, pas tout le Moyen-Orient, mais disons la Palestine ?
Ça donne du coup sa politique, elle est difficilement perceptible, c'est-à-dire qu'il... qui à la fois du coup sert des intérêts qui sont propres du coup aux intérêts américains. Il y a même eu des tensions entre les Américains et les Israéliens de ce côté-là, notamment parce que les Américains ont négocié directement avec des membres du Hamas, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là. Donc on voit qu'il y a une manière de faire un peu différente et que Trump du coup est quelqu'un d'assez imprévisible, même si semblerait du coup que Trump détestait la guerre et avait davantage un appétit pour l'argent. On se rend bien compte du coup que les deux vont de pair chez lui et que la situation est encore plus trouble qu'avant Trump. C'est-à-dire, elle n'était pas meilleure, elle n'est pas pire, mais elle est plus trouble. C'est-à-dire que les cartes, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit entre les Américains et le Hamas. On ne sait pas pourquoi le Hamas du coup a décidé pour l'instant de ne pas répliquer aux attaques israéliennes, ce qu'il faisait du coup juste avant ces discussions-là. Donc voilà, donc il y a des cartes qui n'ont pas été retournées et dont on ne sait pas ce qui se passe, notamment aussi du côté du Hezbollah. Donc c'est assez flou de savoir aujourd'hui ce qu'il en est et quel est l'avenir du coup de la Palestine et de Gaza.
On se rappelle de ses propos exubérants encore sur le fait de créer une riviera à Gaza et également de la vidéo surréaliste qu'il a mise sur ses réseaux sociaux tout en intelligence artificielle avec des palmiers, des immeubles et des voitures dernier cri au milieu de ce qui est actuellement les ravages de Gaza. Tu l'avais vue cette vidéo ?
Non.
Voilà, elle était beaucoup tournée, elle avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et fait beaucoup parler d'elle. Je vous invite à aller la regarder. C'était aussi exubérant, aussi ridicule et aussi honteux en fait que tous ces propos sur le fait de créer une riviera là-bas.
Oui. Donc aujourd'hui, on va parler du Hamas.
Oui.
On va peut-être dire quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là. C'était important. Dès le début, du coup, on va présenter tous les mouvements politiques, mais c'était important pour nous de commencer par le Hamas, parce que du coup, c'est le mouvement qui est le plus décrié, le plus incompris, celui qu'on arrive à le moins cerner, j'ai envie de dire, et le moins étudié aussi, tout simplement. Il y a très peu de choses qui ont été écrites en France au sujet du Hamas. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'avoir un épisode sur ce mouvement pour être le plus complet possible, le plus factuel possible et ne pas rentrer du coup dans des éléments de langage du coup disqualifiant sur le fait que ce sera une organisation terroriste ou autre. Notre sujet, les propos ne portaient pas plutôt là-dessus, mais plutôt sur essayer de comprendre ce mouvement à la fois dans sa phase du coup, sa vision politique et à la fois sa vision du coup militaire. Et c'était important d'avoir les deux et ne pas se focaliser uniquement sur la question militaire.
Ok. Merci Yazid. Juste avant, on va lancer le témoignage de notre ami qui se trouve actuellement en Égypte. Voilà, merci Sidi.
Bonjour Marie, ceci est un petit message depuis l'Égypte. Nous sommes arrivés il y a quelques jours et nous avons pu aujourd'hui rencontrer une vingtaine de familles de blessés ou de malades qui ont été évacués de Gaza et qui, de toute façon, que leurs soins soient terminés ou pas, ne peuvent pas retourner. Ça a été un moment extrêmement difficile et plein d'émotions. Il y avait une quinzaine d'enfants avec eux. Nous avons organisé au nom des Marseillais des alentours solidaires qui avaient cotisé pour apporter un peu de soutien et de solidarité pour dire à ces personnes qu'elles ne sont pas seules dans la difficulté et que quelque part dans le monde, ou un peu partout dans le monde, il y a des gens qui pensent à eux. Donc il y avait 25 familles, 28 familles, une quinzaine d'enfants qui accompagnaient et un animateur pour s'occuper des enfants, pour les faire jouer. On a pu acheter, grâce à la solidarité, on a pu acheter des jouets pour les enfants et offrir un pique-nique et puis donner une modeste somme d'argent pour aider les gens. Il faut savoir que la plupart de ces familles sont écartelées entre Gaza et l'Égypte. Des mamans qui sont venues pour faire soigner un ou deux enfants ont encore des enfants à Gaza. Et que bien souvent, malgré leurs difficultés ici, car ils ont beaucoup de difficultés, les gens ont peur, se sentent isolés et abandonnés. Mais malgré tout, ils essayent par tous les moyens de continuer à faire passer de l'argent pour leur famille prise au piège à Gaza. Voilà, c'est un tout petit message que l'on voulait faire parvenir pour l'émission Une heure en Palestine. On souhaite aux auditeurs d'Une heure en Palestine et à Radio Galère une très belle émission et on dit merci à l'animatrice si elle peut utiliser ce reportage. Voilà, à bientôt sur les ondes de Radio Galère.
Merci beaucoup pour ce témoignage en direct d'Égypte. Donc on revient quelques minutes, enfin quelques secondes avec Yazid pour vous parler de l'extrait de l'épisode qu'on va vous lancer là dans quelques instants. Donc comme l'annonçait Yazid, c'est un épisode sur le Hamas, sur ce parti politique très décrié et sur lequel on dit beaucoup de choses vraies et fausses. Voilà, qu'est-ce que tu as rajouté Yazid?
Non, mais le point de départ, c'est à la fois 87, du coup, et la création de ce mouvement politique. Mais on va aussi, dans cet épisode, revenir un petit peu sur les origines, sur ses fondements, à la fois politico-religieux, pardon. Et du coup, on va essayer de dérouler un petit peu. On a posé tout un tas de questions à notre invité sur ce qu'était ce mouvement, son idéologie, sa pensée, comment est-ce qu'il arrivait à se présenter à des élections politiques, et du coup jusqu'à ce que la situation, du coup, qui est quasiment celle qu'on a connue. Du coup, on s'est arrêté, je crois, en 2006, 2006-2007. Donc on a toute la partie qui vient expliquer un petit peu, retracer qui est ce mouvement et comment il s'est constitué, s'est forgé du coup l'idéologie qu'il a aujourd'hui.
Et alors notre invité était Aude Signol, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches à Sciences Po Aix depuis 2012, qui a passé plus de 15 ans en Palestine occupée et au Moyen-Orient, et qui a publié son livre sur le Hamas en 2012. Voilà. Donc, je vous invite à écouter le petit extrait et à tout à l'heure.
Marhaban, ahlan wa sahlan bikum fil Quds.
Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à Jérusalem, en Palestine. Température extérieure, 30 degrés. Dans quelques minutes, notre équipe apposera le visa palestinien sur votre passeport. Préparez-vous à être informés et éveillés. Laissez-nous être votre guide dans ce voyage immersif.
Si vous cherchez des informations claires et vérifiées sur la Palestine, vous êtes au bon endroit.
On a créé Visa Palestinien justement parce qu'il est difficile de trouver des informations honnêtes et scientifiques sur la question palestinienne en France.
Face aux médias mainstream qui déforment souvent les faits et à l'abondance d'informations sur les réseaux sociaux, on veut offrir un espace de clarté et de vérité.
Ici, on décrypte les faits, on partage des analyses et surtout, on donne la parole à ceux et celles qui vivent ou connaissent la réalité palestinienne.
Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage au cœur de la vérité.
Je suis Yazid.
Et moi, c'est Marie. Bienvenue sur Visa Palestinien.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier épisode d'une série qui sera consacrée aux différents partis politiques palestiniens. Nous avons choisi de commencer par le Hamas, mouvement au centre des débats et polémiques en Occident, et pourtant très peu étudié comme sujet de recherche. Ainsi, au-delà des clichés, nous vous proposons d'explorer ses origines, son idéologie et son rôle dans le paysage politique palestinien. Pour cela, nous recevons Aude Signol, maîtresse de conférences en sciences politiques à Sciences Po Aix depuis 2012, qui a mené des recherches sur le Moyen-Orient, notamment en Palestine, Jordanie, Égypte, Liban et Turquie. Elle a écrit plusieurs ouvrages dont Les Palestiniens, Entre État et Diaspora, Le Temps des Incertitudes, Vivre sous occupation, Quotidien palestinien, et Le Hamas au pouvoir, et après. Bonne écoute.
Bonjour Aude.
Bonjour.
Salut Marie. Merci beaucoup Aude d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc le sujet du jour, c'est d'essayer de mieux connaître et mieux comprendre ce qu'est le Hamas dans toutes ses composantes. C'est quoi le Hamas du coup? Et est-ce que vous pouvez revenir sur la création du Hamas en 1987, ses origines et tout ce que vous pouvez nous dire sur le sujet?
Le Hamas, ça veut dire Mouvement de Résistance Islamique, c'est un acronyme. C'est un mouvement qui a été créé en 1987 dans un contexte assez spécifique à Gaza et en Cisjordanie de révolte en fait populaire contre l'occupation israélienne qu'on a appelé l'intifada, la première intifada. C'est un mouvement du coup qui s'est créé en opposition à l'occupation israélienne des territoires occupés et aussi dans un contexte où le mouvement de libération nationale de Yasser Arafat, qui lui a été créé bien avant dans les années 60, avait fait évoluer en fait son programme et ses revendications politique et territoriale par rapport à Israël. Et du coup, le Hamas, c'est un mouvement qui est né à la fois d'une volonté de certains militants de s'opposer à cette évolution des revendications du mouvement de libération nationale palestinien de Yasser Arafat, et en même temps de prendre part à cette révolte populaire qui était la première intifada et de pas risquer de rester à l'écart de ce qui était une révolte populaire. Parmi donc des militants issus des Frères musulmans, qui est une mouvance en fait qui vient de l'Égypte et qui s'est installée en Palestine dans les années 40-50 et qui a toujours cherché vis-à-vis d'Israël, en tout cas, une politique un peu neutre, donc de non-contestation jusqu'en tout cas 87 de la politique israélienne, parce que l'objectif des Frères musulmans, c'était de réislamiser en fait les Palestiniens en investissant notamment l'éducation pour en faire de bons musulmans, avec cette idée que en transformant la société palestinienne, construisant des Palestiniens bons musulmans, quasi naturellement le pouvoir qui ressortirait serait aussi un pouvoir islamique, quoi. Voilà. Jusqu'à la première intifada, les Frères musulmans, eux, ils créent des associations et Israël les laisse créer ces associations, des syndicats, étudiants, professionnels, qui peuvent tout à fait opérer à Gaza et en Cisjordanie, alors que dans le même temps, l'équivalent des réseaux associatifs et caritatifs de l'OLP sont pas autorisés à exister légalement et donc existent clandestinement en Cisjordanie et la bande de Gaza, avec une politique qui consiste à ne pas s'opposer à l'occupation israélienne. Et au moment de la première intifada, certains de ces militants, les leaders, vont considérer qu'ils peuvent plus rester dans cette politique neutre par rapport à Israël et vont du coup sortir des Frères musulmans et créer le Hamas avec un programme politique du coup anti-occupation israélienne, lutte armée contre Israël et une justification en fait de la lutte armée et de la récupération du territoire avec un référentiel religieux islamique. Voilà.
Du coup, le Hamas est un mouvement à la fois islamiste et à la fois nationaliste, mais en tout cas qui s'oppose totalement aux mouvements transnationaux du coup du type djihadiste internationaliste qui opère sur l'ensemble du monde. Comment vous pouvez nous expliquer un peu la distinction du coup entre le Hamas et ses autres organisations, qu'elles soient terroristes ou non d'ailleurs?
Oui, c'est vraiment à l'origine en 87, le Hamas c'est un mouvement prioritairement nationaliste parce que son agenda c'est vraiment mettre fin à une occupation étrangère israélienne, à la colonisation. Sur ce mot d'ordre-là, ils sont vraiment en accord avec l'OLP. Et d'ailleurs, pendant la première intifada, il y a un comité qui s'appelle le Comité national unifié qui va réunir l'ensemble en fait des composantes politiques palestiniennes dans la lutte contre Israël. Et ils ont aussi un objectif politique clair qui est la récupération des territoires, etc. Et ce qui diffère le Hamas de l'OLP, c'est effectivement l'argumentation qu'ils mettent en avant pour justifier en fait leurs revendications territoriales et leurs moyens d'action. L'OLP s'appuie, s'est toujours appuyé sur le droit international, les résolutions de l'ONU, qui effectivement reconnaissent la légalité de la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est comme palestinienne, etc. Alors que le Hamas considère que l'ensemble de la Palestine historique, donc y compris ce qui correspond à Israël, dans ses frontières telles qu'elles ont été créées en 48, c'est un bien qu'ils appellent waqf, un bien religieux, islamique, et donc inaliénable à d'autres populations que musulmanes. On voit l'argumentation religieuse dans le pourquoi de cette revendication, que cette terre-là doit appartenir aux Palestiniens. Et aussi, ils font de la lutte armée et de la défense de la Palestine un devoir islamique moral pour l'ensemble de la société. Et c'est aussi pour ça, et c'est là qu'on voit aussi l'empreinte des frères musulmans. En créant le Hamas, ils vont pas pour autant arrêter tout ce qui est l'activisme social. Au contraire, pour eux, c'est un combat parallèle, parce que c'est aussi l'islamisation de la société qui va renforcer la vigueur, entre guillemets, des gens et le devoir qu'ils ont à se battre pour la récupération de la Palestine. C'est un mouvement nationaliste d'abord, qui a effectivement une rhétorique religieuse, islamique. Contrairement à des partis islamistes qu'on trouve dans les années 90 en Jordanie, par exemple, ou en Égypte, frères musulmans, fréristes, et qui, eux, sont sur une prise de pouvoir politique en se présentant à des élections et qui veulent, en fait, transformer les lois de l'État jordanien ou égyptien, et donc prendre le pouvoir chez le Hamas, qui réfléchissent finalement à ce que c'est qu'un État islamique et l'idéal de l'État. Au Hamas, il n'y a pas, jusqu'aux années 2000, de réflexion sur quelle forme d'État on veut. La priorité, c'est vraiment la récupération du territoire. Et c'est aussi ce qui me fait dire qu'ils sont nationalistes avant tout. Et c'est dans les années 2000, un petit peu avant que Arafat meure, mais surtout dans l'après-Arafat, que certains membres du Hamas à Gaza et en Cisjordanie ont aussi été connectés au réseau Frères musulmans en Jordanie et en Égypte. Et il y avait beaucoup de réunions Frères musulmans à l'échelle du Golfe et du Moyen-Orient, et où les gens s'échangeaient justement un peu des réflexions sur laïcité, État islamique, démocratie, État islamique, etc., que le Hamas a pris part à ces discussions, mais quand même très marginalement. Effectivement, du coup, c'est un parti très, très différent de mouvements salafistes qui ont un agenda djihadiste avec comme compréhension, en fait, de ce terme, la constitution d'un ennemi global qui est l'Occident et qui vont aussi construire un nous un peu idéalisé musulman. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que vraiment le Hamas n'est jamais allé vers un agenda djihadiste. Ben, c'est que vraiment c'est un parti nationaliste au départ, donc eux ils sont pas sur des réseaux globaux qui luttent contre un or diabolique et global. Ils ont un ennemi clairement identifié qu'à un État, Israël, et la lutte contre une occupation. Et donc, quelque part, leur combat, il est dans des frontières sur un territoire extrêmement précis qui se passe ailleurs. C'est pas que ça leur importe peu, mais c'est pas leur priorité. Ils sont pas non plus du tout, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans une représentation de l'autre occidental diabolique. Et c'est vrai de l'ensemble des Palestiniens, il n'y a pas que le Hamas, même les gens du djihad islamique. Il n'y a pas ça en Palestine, parce que je pense que jusqu'à... Ça peut changer, hein, mais en tout cas, voilà, jusqu'aux années 2010, il y avait quand même cette prise de conscience que la communauté internationale pouvait les aider, à la fois d'un point de vue politique, mais surtout financier. Et il y a aussi beaucoup de Palestiniens qui ont de la famille, que ce soit dans le Golfe, mais aussi aux États-Unis, en Amérique latine. Et il y a aussi des chrétiens palestiniens. Tous ces faisceaux-là de choses font que on n'a pas une vision binaire. Nous, purs musulmans versus les occidentaux diaboliques.
Donc plutôt un mouvement nationaliste avec un référentiel religieux.
Oui.
Ce serait plus juste.
Tout à fait.
D'accord. Comment cohabitent finalement, du coup, dans une même organisation, à la fois le volet politique, social et militaire, du coup ? Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se coexistent ces trois dimensions ?
C'est vrai, donc il y a trois dimensions dans ce mouvement politique, mais quelque part, comme dans beaucoup de mouvements politiques du Moyen-Orient, comme le Hezbollah, par exemple, mais même le Fatah, le mouvement de Yasser Arafat, hein, a une composante militaire, une composante directement politique et un volet social d'implication vraiment pour mobiliser la société, en fait, au niveau syndical, associatif, professionnel, etc., économique aussi. Et alors, au sein du Hamas, le volet social, caritatif, éducatif, c'est vraiment celui qui donne l'empreinte, l'héritage des frères musulmans et qui est encore extrêmement, qui n'a jamais, qui a toujours été présent. Donc, y compris quand le Hamas a été créé, ils ont gardé cette branche sociale avec un fort investissement dans le domaine de la santé, l'hôpital islamique de Gaza et l'éducation au départ, donc ces deux secteurs-là. Après leur prise de pouvoir en 2007, donc à partir des différents épisodes guerriers lancés par Israël en 2009-2014, ils sont aussi énormément investis le champ humanitaire parce qu'aussi il y avait de moins en moins d'aide extérieure qui arrivait dans le domaine humanitaire. Donc ils se sont vraiment professionnalisés en la matière. Et c'est ce qui aussi explique que le Hamas a une si forte popularité parce qu'il offre des services gratuits dans des domaines importants de la vie quotidienne, l'éducation, la santé, à une vaste majorité de la population, et des services qui sont de qualité. Par exemple, l'université islamique de Gaza, d'abord, ça a été très longtemps la seule université à Gaza. Du coup, y compris des étudiants non Hamas ou de sensibilité islamique y allaient parce que c'était le seul lieu d'éducation. Mais en tant qu'universitaire, vraiment, je peux dire qu'il y a des collègues qui produisent, enfin voilà, vraiment des réflexions de qualité sur justement l'évolution des mouvements islamiques dans le monde, voilà, l'islamologie, etc. L'archéologie, hein, aussi, un très gros département d'archéologie là-bas, etc. C'est grâce à ces services-là, effectivement, qu'ils peuvent avoir une clientèle électorale. Mais c'est aussi parce que ils ont fait le choix d'investir ces secteurs là où, à partir des accords de paix en 1993 et 1994, l'autorité palestinienne et donc le parti d'Yasser Arafat ont déserté. Donc ça, c'est le volet social qui demeure encore important aujourd'hui, enfin, et fait que il y a de l'aide justement quand même et des soins qui peuvent être apportés à la population gazaoui en ce moment. Le volet militaire, il date de 1992. En fait, la branche militaire du Hamas a été créée un petit peu après la branche politique. Le mouvement s'appelle les brigades Esedim al-Qassem. Alors, on a peu d'informations sur cette branche militaire, contrairement à la branche politique dont l'agenda des revendications à évoluer depuis 1988, sont quand même sur un credo de priorité à la lutte armée, avec cette idée que Israël ne comprend que le rapport de force et la violence. Du coup, j'ai envie de dire aussi un credo qui refuse toute perspective de négociation a priori, avec cette idée que Israël est sur un double langage, voilà, qu'on peut pas faire confiance en fait à l'engagement des Israéliens dans un processus diplomatique. Et ce sont eux qui ont été, qui sont encore, j'ai envie de dire, sur l'idée de si discussion avec Israël il doit y avoir, c'est au mieux une trêve militaire, mais sans reconnaissance politique d'Israël dans ses frontières telles que reconnues par la communauté internationale. Alors que la direction politique a considérablement évolué depuis 1988. Comme 1988, c'est le premier document, on va dire, fondateur du Hamas, la charte de 1988. Elle établit que l'objectif politique, c'est la destruction de l'État d'Israël, la récupération de l'ensemble des terres perdues en 1948 par le biais de la lutte armée. Ils ont maintenu cet objectif dans les années 90, au moment où l'OLP et Yasser Arafat ont signé les accords de paix avec Israël, et étaient donc du coup sur une solution à la fois de négociation, mais surtout de reconnaissance de deux États séparés, et donc de reconnaissance explicite par l'OLP du droit de l'État d'Israël à exister. Dans les années déjà 2000, le Hamas a évolué en interne, en tout cas, avec celui qui a longtemps été vraiment sa figure spirituelle, qui est un des pères fondateurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fondé le Hamas. Il a été fondé par des étudiants, justement, de l'Université islamique de Gaza, qui sont pour la plupart nés au début des années 50, soit en Israël et dont les parents sont venus se réfugier à Gaza, soit nés dans les camps de réfugiés de Gaza, et qui étaient étudiants en arabe à l'Université islamique de Gaza. Et donc le cheikh Ahmed Yassine, qui a été cette figure spirituelle du...
L'antenne, c'est bon. Bon, ça a été coupé un peu brutalement, mais voilà, vous avez un premier extrait de notre épisode d'une quarantaine de minutes qui va sortir lundi, donc lundi sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Et sachez que nous avons aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire et du coup qui sortira en même temps lundi soir. Donc vous pouvez aller sur notre site internet visapalestinien.org, vous retrouverez toutes les informations et le lien pour l'accès à la newsletter.
Tu le fais bien Marie, hein. Bien présenté, bravo.
Merci.
Oui, effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a baissé un peu le rythme des publications, notamment par rapport à nos épisodes, mais on va revenir très bientôt. On reviendra, Inch'Allah, avec une deuxième saison, avec plus de contenu, une qualité aussi différente du coup dans la production. On passera du sonore normand à de la vidéo. Donc ça, c'est en exclusivité. Parce que Marie est en train de me regarder avec des grands yeux, genre il ne faut pas le dire. Mais je l'annonce.
Bon bah ça y est, c'est officiel. Bon, c'est non, officiel. On n'a plus le choix, alors
voilà,
ça veut dire.
C'était un peu ça l'idée.
À partir du moment où on l'annonce, ça y est.
Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Il faut le dire, pour personne qui nous écoute, c'est fait totalement bénévolement et ça prend un temps de préparation, de recherche des intervenants. Voilà. Donc en tout cas, on a hâte que vous puissiez, dès lundi, écouter ce nouvel épisode.
J'ai aussi une petite suggestion à vous faire. Donc, tout d'abord, si ce n'est pas déjà le cas, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, donc Visa Palestinien, principalement notre Instagram, puisqu'on a été, ils nous ont supprimé notre Twitter et notre Facebook, donc suivez-nous sur Insta. Et d'autre part, l'Instagram de Urgence Palestine, qui est une association fondée par des Palestiniens en France, qui avait 88 000 followers, a été supprimé par Meta la semaine dernière. Donc un sacré coup. Il faut savoir qu'ils ont fait ça avec de nombreux soutiens à la Palestine, des comptes qui avaient des millions de followers. Donc on n'est pas si étonné que ça. En tout cas, ils ont un compte de secours qui s'appelle urgence.palestine et vous pouvez les suivre également là-bas. Voilà.
Oui. Et du coup, dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter une de mes chansons préférées qui date d'il y a plus de 20 ans, qui s'appelle Dam al-Arabi, ça veut dire la conscience arabe, du coup, qui est chantée par une quarantaine d'artistes arabes, du coup, du monde arabe, et qui chantait du coup à l'époque pour ce qui se passait en Irak, au sud du Liban et aussi en Palestine.
Mais cette musique dure 40 minutes, donc pareil, c'est un extrait qui ne fait qu'une dizaine de minutes. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous et
à bientôt.
À bientôt.
ذلنا بمجد الإنسان. الله هو المحبة، ديننا هو السلام.
لا قلوب الناس ما تبنى النار، يمكن نسينا في يوم من العرب الخوف. لا قلوب الناس ما تبنى النخور، يمكن نسينا في يوم من العرب الخوف.
ما قلوب الناس ما تبنى النخور، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة. ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة.
مفيش إشي دير فوق الحديد أمشي فوق، مش عارف وين كروب هاي الضمير العالمي هيك سكر الدنيا
كل أشهر.